France 24, LCP, Public Sénat, présente.
Bienvenue pour notre débat au Parlement européen où aujourd'hui nous allons regarder du côté de l'Est et de la guerre hybride que mène Vladimir Poutine en Europe. Ingérence dans des élections nationales, financement de partis pro-russes, désinformation en ligne, sabotage d'infrastructures, cyberattaques, tous les coups bas sont-ils permis dans cette partie basse intensité du conflit qui oppose le Kremlin aux Européens ? Alliés de l'Ukraine. Le 18 novembre, ainsi, des câbles de télécommunication ont été endommagés en mer Baltique. 6 pays ont réagi en pointant la Russie du doigt.
D'ailleurs, il y a de vastes opérations de démoralisation des Ukrainiens via des fake news imaginées par Moscou. Mais cette désinformation intense s'étend aux pays voisins que Vladimir Poutine considère comme son pré carré, la Moldavie peu impressionnée et surtout la Géorgie où le parti qui clame la victoire aux élections d'octobre, Rêve géorgien, a renoncé brutalement à l'adhésion à l'Union européenne.
Et dans le club des 27 en Roumanie, la Cour constitutionnelle a annulé l'élection présidentielle. Le renseignement national a démontré une opération d'envergure sur TikTok en faveur du candidat pro-russe Calin Georgescu, arrivé contre toute attente en tête du premier tour.
Alors, pour en parler, nous recevons András László, bonjour.
Bonjour.
Eurodéputé hongrois du parti Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orbán, réputé proche du Kremlin. Bernard Guetta, bonjour.
Bonjour.
Eurodéputé français Renew, le parti d'Emmanuel Macron. Et rappelons que vous étiez ancien journaliste et vous avez travaillé notamment en Pologne et en Russie. Je crois que c'était sous l'ère soviétique.
Bernard Guetta, justement, aujourd'hui, est-ce que vous considérez que Vladimir Poutine est en train d'orchestrer une guerre hybride qui vise les Européens ?
Écoutez, il est en train d'orchestrer une guerre tragiquement classique en Ukraine. Il est en train d'orchestrer des guerres de nouvelles formes qu'on dit hybrides. C'est de la manipulation. Comme ça s'est toujours vu dans l'histoire, sauf que la manipulation, aujourd'hui, relève de la haute technologie et non pas des Matahari. C'est la grande différence. Mais fondamentalement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est au déploiement d'une volonté de Vladimir Poutine de reconstituer non seulement l'Union soviétique, mais aussi, s'il le pouvait, ce qui a été le bloc soviétique est fondamentalement, et ça, il l'écrit, il le dit, de reconstituer l'Empire russe, l'Empire des Tsars, qui comprenait la Finlande et plus de 50% de la Pologne. Plus de 50% de la Pologne.
András László, est-ce que vous reconnaissez ce constat d'une tentative de déstabilisation menée par le pouvoir de Vladimir Poutine en utilisant des armes non conventionnel, non militaire pour déstabiliser les Européens ?
Ben, la Russie, mais aussi pas seulement la Russie, dans le monde d'aujourd'hui, un monde numérique, ça devient de plus en plus facile de faire des ingérences étrangères dans des autres pays. Et ça, on voit tout le temps. Et quand on regarde ce qui se passe à propos de la guerre en Ukraine, il y a une escalade depuis 2 ans et demi, pas seulement dans les moyens, mais aussi où la guerre est menée. Et de quelle façon? Donc maintenant, quand on voit les missiles qui sont maintenant permis par les États-Unis, je crois la France et un autre pays qui disait que oui, il est permis de frapper des cibles militaires en Russie avec les armes qui étaient importées des partenaires européens et américains, ben, on voit qu'il y a une escalade qui est aussi dans la région, au niveau territoire, et même jusqu'à la mer Baltique.
Vous citez la mer Baltique, mais sabotage à répétition dans cette mer Baltique. Le ministre allemand de la Défense pointe son origine russe. On ne réagit pas d'ailleurs très fort, les Européens, là-dessus.
Que voulez-vous que l'on fasse concrètement ? On proteste politiquement, on arme la résistance de l'Ukraine. On met en garde les dirigeants du Kremlin, mais on ne va pas déclarer la guerre à la Russie ou envoyer des troupes marcher sur Moscou. Mais à ce propos, vous venez d'employer un mot qui m'a surpris. En vérité, qui m'a choqué. Qui m'a choqué quand vous dites escalade parce que les pays occidentaux, les États-Unis principalement, viennent d'autoriser les Ukrainiens à utiliser des armes pour frapper en territoire russe des installations militaires, évidemment pas civiles, des installations militaires. Mais attendez, ce n'est pas une escalade, c'est une riposte à une guerre d'agression. Il n'y a jamais eu aucun Ukrainien qui mette le pied avant l'agression russe en territoire russe. L'agression russe commence par l'annexion, parce que c'était une annexion de la Crimée, ensuite par une ingérence militaire de plus en plus prononcée dans le Donbass, et enfin par l'entrée de 200 000 hommes de troupes russes, il y aura bientôt trois ans, en territoire ukrainien. Les Ukrainiens ont parfaitement le droit, ça ne s'appelle pas une escalade, de riposter à cette agression, à cette présence russe sur leur territoire, à ces bombardements constants.
Alors, voilà pour la réponse de...
Non, mais juste encore une phrase. Oui. Pourquoi est-ce que la Russie aurait le droit de bombarder l'Ukraine nuit et jour sans qu'on appelle ça une escalade? D'ailleurs, effectivement, ce n'est pas une escalade, c'est une agression. Et pourquoi est-ce que quand l'Ukraine riposte, ce serait une escalade?
Alors voilà faire pour votre réponse donc sur le volet militaire. Sur le volet de la guerre hybride, je voudrais vous entendre à nouveau, Andreas Laszlo. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, parle de campagnes de plus en plus intenses d'attaques hybrides. Est-ce que l'OTAN ne devrait pas se poser la question d'une riposte? Et quelle riposte?
Vous en faites partie de l'OTAN, hein, la Hongrie, précisons quand même.
Oui, mais le problème depuis l'agression russe, c'est justement qu'il n'y a pas de stratégie claire de la part ni de l'OTAN, ni de l'Union européenne, ni des grands pays occidentaux qui ont les plus des capacités pour fournir l'Ukraine et aider l'Ukraine. Donc on est dans une guerre depuis presque trois ans. Il y a des hommes politiques européens qui disent que c'est notre guerre. Nous, en Hongrie, on dit que évidemment, il faut aider l'Ukraine, mais ce n'est pas notre guerre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit depuis le début de cette guerre, c'est qu'il y a une fatigue de la part de l'opinion publique européenne.
Mais surtout chez les Hongrois, apparemment.
Non, partout en Europe. Si vous regardez les sondages de 2022 et de 2024, ils sont très différents. Même chose aux États-Unis. Et d'ailleurs, maintenant, déjà en Ukraine. Donc, et quand je parle d'escalade, c'est évidemment l'Ukraine a le droit de se défendre. La question d'agression est claire, mais les moyens utilisés pendant ces trois ans, c'était limité au début, puis il y avait une escalade de temps en temps, tous les quelques mois, qu'il faut maintenant des chars, qu'il faut des missiles plus longs qui peuvent frapper en Russie. Tout ça, c'est graduel.
Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une question de gradualisme. Non, c'est véritablement le droit que vous venez de reconnaître, je vous en remercie et vous en félicite, le droit de l'Ukraine de se défendre, tout simplement.
Alors, regardons ce qui se passe sur le flanc est de l'Europe, parce qu'on a commencé à parler de fatigue. Est-ce que c'est le fait de la fatigue, justement, de la guerre, ou c'est le fait de la propagande? En attendant, en Moldavie, la présidente, Mme Sandu, a réussi à faire voter en faveur de l'adhésion européenne, mais de très petite justesse, et en Géorgie, quelques semaines après, vote en faveur du rêve géorgien qui clame la victoire et veut abandonner les négociations d'adhésion. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Alors, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient abandonner, ils ont dit qu'ils repoussaient. Mais vous avez raison, sur le fond, on entend bien qu'ils veulent l'abandonner. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, avec la guerre d'Ukraine, la Russie envoie le message à des pays très proches d'elle, comme la Géorgie, comme la Moldavie, naturellement, que regardez ce qui se passe en Ukraine, ça pourrait vous arriver. Et donc soyez prudents, ayez peur de la guerre.
Et de la Russie surtout.
Et de la guerre, évidemment, menée par la Russie. Et évidemment que beaucoup de gens ont peur de la guerre, et ça se comprend. Et ils ont un réflexe que je qualifierais, puisque nous sommes entre francophones, que je qualifierais tout simplement de pétainiste. C'est-à-dire, face à cette agression, plutôt que de dire on résiste, on riposte, on cherche les moyens de le faire, etc., composons avec l'agresseur. Ben, ce réflexe, il existe en Moldavie, il existe en Géorgie, il existe en Roumanie. Mais il existe, si vous me permettez, encore une phrase, il existe en fait dans tous les pays européens, parce qu'on retrouve grosso modo dans tous les pays européens, du continent européen, ces 30% de nouvelles extrêmes droites favorables à un compromis avec Vladimir Poutine.
Andreas Laszlo, Viktor Orban, votre Premier ministre, le Premier ministre hongrois, s'est rendu en Géorgie dès l'annonce des résultats, pourtant contestés par les observateurs européens qui ont parlé d'élections faussées. Les Pays-Baltes réclament des sanctions contre des personnalités géorgiennes. Votre pays, la Hongrie, va s'opposer à de telles sanctions qui vise à dénoncer le processus électoral tel qu'il a eu lieu.
J'espère que oui. Ce qui se passe en Géorgie, c'est on voit que le réflexe de survie, ça fonctionne. C'est un pays de plus ou moins 4 millions de personnes dans une région du monde qui est très fragile, entourée par des grandes puissances et avec deux voisins qui ne sont pas en bonne relation. Et dans une situation pareille, il y a une demande de la part des pays occidentaux et des États-Unis qu'ils fassent quelque chose contre la Russie. Évidemment, ils ne veulent pas une deuxième guerre, ils ne veulent pas devenir un deuxième front dans la guerre d'Ukraine. C'est très logique. Évidemment, la Russie, il y a des sentiments anti-russes en Géorgie justement à cause de la guerre de 2008. Et 20% du territoire de la Géorgie reste occupé, mais ça ne veut pas dire qu'un pays de 4 millions, ils vont ouvrir un nouveau front contre la Russie.
En tout cas, ils se détournent de l'Union européenne. C'est incroyable. Ils se détournent de l'Union européenne.
Je ne partage pas du tout cette manière de voir les choses. Parce que vous dites, les États-Unis demandent à la Géorgie d'ouvrir un front contre la Russie. Ils ne demandent pas du tout. Où les États-Unis font une telle demande? Il y a en revanche très profondément en Géorgie un désir de rejoindre l'Union européenne, désir que vous comprenez puisque
justement,
vous félicitez
c'est l'Union et le Parlement qui essaient de couper ces relations.
Puisque vous félicitez vous Hongrois et je le comprends d'appartenir à l'Union européenne. Alors la Russie de M. Poutine, parce que c'est pas la Russie, c'est le régime de M. Poutine. Est absolument hostile à l'idée même que la Géorgie puisse rejoindre ou même se rapprocher, non pas de l'OTAN, mais de l'Union européenne, qui pour l'instant n'a pas de défense et n'agresse pas la Russie, que je sache. Alors, ce n'est pas du tout la même situation. On ne peut pas dire que les États-Unis demandent à la Géorgie d'ouvrir un front contre la Russie. D'ailleurs, ce n'est pas du tout la situation.
Beaucoup plus proche, dans le club européen, M. Laszlo, effectivement, poussée exponentielle de l'extrême droite pro-russe en Roumanie, c'était une surprise des élections présidentielles. La désinformation poussée par des robots russes sur TikTok, il y a cette question des réseaux sociaux maîtrisés par les Russes.
Non, c'est une question des messages. Ce qu'on voit, je dirais plutôt que ce qui se passe à propos de la guerre et les relations avec la Russie et terminer la guerre en Ukraine, c'est très semblable à ce qui s'est passé au niveau de la crise migratoire. Il y a l'élite politique, les partis politiques, les hommes politiques qui disent tous la même chose, même si la population n'est pas entièrement d'accord sur un sujet. Et les partis politiques laissent une vide dans la politique pour des nouveaux partis, des nouveaux personnages d'apparaître, de dire que je vais représenter l'opinion qui n'est pas représentée par aucun autre parti ou aucun autre homme politique.
Andreas Laszlo, quand un candidat passe de 2% à 22% en quelques semaines et qu'on note un phénomène très particulier sur les réseaux sociaux, vous ne vous dites pas qu'il peut y avoir un jeu démocratique qui est faussé et qui
serait pipé ? Peut-être Bernard Guetta.
Pas du tout, Bernard Guetta.
Vous savez, une anecdote. Il y a 2 ans à peu près, Vladimir Poutine est interviewé sur les sanctions occidentales. Et il répond, Vous savez, ça va diminuer les importations des pays occidentaux. Et peut-être que comme ça, il éclate de rire. Il éclate de rire. Et peut-être que comme ça, nous aurons moins de punaises de lit. Et j'entends ça. Et vraiment, mon oreille a été accrochée. Parce que je me suis dit, mais si Vladimir Poutine est au courant, si bien au courant, de la psychose sur les punaises de lit en Europe occidentale et particulièrement en France, est-ce que ça ne serait pas un petit peu parce que les services russes sont pour quelque chose dans ce développement invraisemblable de la psychose qu'il y avait eu sur les punaises de lit? La réponse est évidemment oui. La réponse est que les services russes manipulent en permanence nos opinions, les réactions des opinions, etc. etc. Bah, écoutez, ça s'appelle la guerre hybride. Et encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui un développement spectaculaire de cela, parce qu'il y a les nouvelles technologies.
Et donc, il faut mieux les encadrer très rapidement, en 30 secondes chacun. Donc, il faudrait mieux encadrer les nouvelles technologies pour tenir compte de ces risques de la guerre hybride, encadrer TikTok, peut-être même X, le réseau maintenant qui est aux mains de Elon Musk, etc.
Non, pas du tout. Les Européens veulent plus de liberté d'expression et non pas des limitations et censures. Ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des Européens veulent que l'Union essaye de rétablir la paix en Ukraine. Et même parmi les 26-27 gouvernements qui sont vraiment qui participent dans cette politique, il n'y en a qu'un qui parle de négociations.
Les presses libres de toutes les grandes démocraties sont soumises depuis toujours à des lois contre la diffamation et contre la manipulation. Les réseaux sociaux doivent l'être aussi. Ce n'est pas du tout de la censure.
Merci à vous d'avoir très bien participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi sur nos deux antennes.
Merci Caroline. Bonne suite de programme sur nos chaînes.